finale.
Bravo.
Soyez les bienvenus. Avec donc des bisous pour Leïla,
oui, la pauvre.
Monsieur Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algout.
Bravo Albert.
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure.
Bonjour.
Réservez une ovation de tendresse pour Agnès Hurtel, notre nouvelle, qui n'est pas contre lui.
Bravo. Moi, je l'aime pas du tout.
Et pour notre invité, Alex Lutz.
Bravo
Alex. Ravi de vous accueillir. Alors, je voulais vous dire un truc.
Problème capillaire, voilà. Problème de... Je ne suis plus branché, okay, je me suis débranché.
On va vous brancher votre casque, mais surtout, comme maintenant la radio est de plus en plus filmée...
Faites très attention.
Faites attention.
Mais alors, ça doit
vous
être...
étiez tellement décoiffé.
Ça doit être très inconscient. Il doit y avoir un truc en moi qui dit, ben tu sais quoi, tant pis.
Ouais.
Wow,
un lâcher prise.
T'as vu un peu ce côté...
Ça, c'est la Hulot attitude. Tant pis, je m'en fous.
C'est pas du rock, ça, un peu quand
c'est
même.
Totalement rock.
Je reste moi-même.
Totalement rock, ouais, j'arrête de me mentir.
Mais non, mais alors moi, j'aimerais quand même qu'on me l'explique un jour, ce principe de la radio filmée.
Ah bah, moi aussi.
Moi aussi.
Moi aussi. Moi aussi.
Ouais,
non, mais vraiment, il y a quelque chose de fondamental qui me fait de la peine là-dedans. Moi, j'aimais bien
on est
l'imaginaire.
Tous
l'imaginaire qui travaille.
Et si on coupait,
si on coupait
la caméra.
Bon, bah, non, mais on va se dire la vérité. Je pense que tous ceux qui font de la radio.
Attention, Nagui dit la vérité.
Déteste. Ouais. C'est le jour.
C'est le jour du lot.
C'est le jour du lot.
On écoute.
J'en ai marre de me mentir.
Vas-y.
Je pense qu'aucune personne travaillant à la radio est d'accord pour qu'il y ait des caméras qui filment la radio. Mais c'est une décision de patrons qui disent maintenant c'est le numérique, ce sont les réseaux sociaux, les gens regardent de plus en plus en streaming ou lors des petits extraits des machins.
Ça veut dire que c'est la loi. C'est,
voilà. Ça veut dire que c'est le patron qui décide.
Ah oui, ça c'est
vrai. Et maintenant.
J'ai failli faire une mini révolution qui s'est arrêtée.
C'est l'intention.
Et toutes les radios cèdent à cette mode.
Bah voilà. Ouais, moi j'aimais bien les voix et imaginer des trucs.
Bon, en même temps, Nagui manquait de temps de présence à l'antenne, en télé. Vous faites que 7 heures par jour sur France 2.
Et certains ont un physique de radio, c'est pour ça aussi qu'il est bon de ne pas forcément les montrer.
Et Nagui, quelquefois, comme vous, on a une voix de presse écrite.
On va parler de Guy, évidemment, ce très bon film qui sort.
Mais pourquoi on passe un tellement bon moment là,
demain,
c'est pas la peine.
Au cinéma. Mais avant tout, je voudrais savoir si vous connaissez bien.
Oh non, pas une interro.
Agnès, Albert et Daniel, si vous connaissez bien. Alors, c'est interro, vous ne dites rien pour l'instant, Alex.
Non.
Vous ne faites que.
Affirmer.
Voilà. Okay. Vous confirmez ou vous infirmez. Voici donc l'interro. Ça, c'est sérieux, j'adore, ça fait peur. Quelle est l'occupation préférée d'Alex Lutz quand il est assis avec quelqu'un au restaurant ?
La coiffure.
Il regarde les voisins pour les imiter éventuellement.
Il l'écoute.
Exactement. Vous écoutez les voisins à table, vous ?
Ah bon, que j'ai
pas
dit
bon,
ça, j'ai déclaré ça.
Oui, c'était dans l'Express il y a 2 ans.
Ah bah l'Express.
J'ai dit ça comme ça. J'écoute les voisins.
J'écoute les conversations à table d'à côté quand je suis au restaurant.
Et là, il regarde le public là.
Je fais semblant. C'est même pire. Je fais semblant d'écouter la personne avec qui je déjeune. Et je ne perds pas une miette de la table d'à côté.
Eh ben voilà.
Et à la radio, c'est pareil.
C'est pas plus con que de faire semblant d'écouter quelqu'un en lisant un texto et
oui,
en
exactement.
Disant arrête, t'es con, Michel, alors que l'autre est en train de dire un truc grave en face de toi. Ouais.
Non, mais quel est l'intérêt? Vous vampirisez les discussions des autres?
Non, pas du tout, mais c'est évidemment un bistrot ou un lieu public comme ça, c'est formidable pour croquer des gens. Mais Sylvie Joly, elle s'en servait aussi pour bien jouer une scène. Quand elle avait une scène à répéter, à travailler, un dialogue ou quoi, elle disait que le mieux, c'était au bout d'un moment de la répéter dans un bistrot. Et elle disait
comme si c'était la vie quotidienne.
La vie quotidienne. Et elle disait quand vous sentez que la table à côté commence à se déconcentrer de sa propre conversation, ça veut dire que vous êtes dans le juste.
Bon.
Parce que Alex a mis en scène la grande Sylvie Joly.
C'est vrai.
La cerise sur le gâteau, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Et il faut préciser une chose, génial. C'est que vous choisissez donc des personnes inintéressantes avec qui vous déjeunez, vous dînez, puisque vous les écoutez.
Ou alors des complices.
Ça facilite les choses.
Nagui va recevoir une invitation.
Autre question. Quand Alex Lutz, considère-t-il
du mal avec les mots
avoir réussi dans son métier? Il estime qu'il y a un moment où il va se dire là, j'ai réussi dans mon métier. Pour l'instant, il n'y est pas encore arrivé.
Quand il déjeunera avec Michel Drucker.
Non, ça a dû être fait déjà. Pour le tournage du film déjà. Non, à quel moment il estime avoir atteint le top de la notoriété?
Quand il est passé dans cette émission.
Quand la voisine de sa mère prononcera bien son nom.
Joli. Comment tu sais ça?
Comment c'est possible ça?
J'ai travaillé toute la nuit.
Oh putain, mais alors c'est au-delà de travailler, quoi.
Ah ouais.
C'est en page 17 de Google.
Non, c'est pour ça que c'est peut-être très fatigué. Hein.
Ouais, merci.
C'est la voisine de votre maman, n'arrive pas à dire votre nom, il est quand même pas si dur que ça à dire.
Eh ben, t'as bien vu, dans ta question, t'as fait.
Non, j'ai accroché. C'est pas ça. J'avais un problème de virgule. C'est pas quand Alex Lutz considérera-t-il. Non, c'est quand, virgule. Considérable.
Ça va être long, cette émission, ça va être long.
On perd en rythme, on perd en rythme.
Quelle est la mode qui agace Alex Lutz? J'ai bien dit. Quelle est la mode qui l'agace?
La radio filmée.
Ah oui, à part celle-là. Mais c'est une question de technologie, en tout cas, oui.
Ok.
Alors, les réseaux sociaux.
Essayez plein de trucs.
Mais les mecs qui balancent des textos
Instagram.
Au restaurant.
Non.
Les chaussures, le boutin pour homme.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, les crêpières?
Quoi? Ah, on te dit au casque, on te dit une crêpière, c'est ça. Non mais arrêtez, Jean-Baptiste, t'es une merde.
Ça va,
arrête.
C'est mon premier jour.
Mais non, mais c'est pas une raison pour donner.
C'est le rédacteur en chef.
Non mais il est ridicule.
Il fait son boulot, il souffle comme un nagui.
Non, il est ridicule.
Ça fait 15 ans qu'il n'a pas eu de compagne, il essaye d'attraper une pauvre chroniqueuse. Honte à vous, monsieur. Honte à vous.
Non, c'est honteux. Donc oui, c'est ça. Vous n'aimez pas les appareils à raclette, les toasters et autres machines.
Bah, au moment où ils sortent, je sais qu'ils vont très vite encombrer la maison sous 6 mois et qu'on ne s'en servira pas. Donc ça m'agace.
Non, alors ce qui ne sert à rien, c'est la machine à pain. Ça, c'est tout le monde.
Oui, parce qu'on se fantasme auto-boulanger deux minutes, on le fait pas.
Ça sent le vécu.
Et pareil avec, les merveilleuses soirées crêpes qu'on fait pas si souvent, ou alors avec une poêle.
Mais la raclette.
Alex, oui, la raclette, Alex, mais c'est une fois par an, ça prend une place.
Alex, faut pas lancer Nagui là-dessus, il est capable de faire toute l'émission.
La pierrade, excuse-moi, la pierrade.
Merde, ça y est, c'est parti. Moi, je vais faire un tour.
Qui a niqué un nombre incalculable de plafonds.
Ouais, ça noircit.
Ah non, ça m'embête.
Une autre question.
À quelle comédienne, c'est la dernière, attention. À quelle comédienne Alex Lutz a-t-il dit « Lâchez-moi, vous me faites mal »
Catherine Deneuve.
Non. Je sais, et personne ne me le dit dans le cas Monica Bellucci.
Elle enlève son casque pour le bruit. Oh, joli.
Ça
y est.
Je n'aime pas perdre.
Ça se voit. Elle vous est vraiment mal?
Non.
Elle vous forcez.
On a fait. J'ai eu la chance de l'embrasser fougueusement à Cannes pour.
C'était l'inauguration, c'est ça?
Oui, j'avais mis en scène l'inauguration et la clôture. Et on voulait faire un hommage à un baiser hollywoodien, mais inversé. Où c'est.
Elle qui vous renversait.
Elle qui me renversait. Et puis. Je me débat mollement, je vous le dis. En disant, lâchez-moi, vous me faites mal. Et elle dit juste, laisse-toi aller, Alès. Alors,
Et Mathilde, votre épouse, a trouvé ça du spectacle.
Elle était en rogne quand elle a su.
Que c'était vous le metteur en scène.
Oui, j'ai dit, oh, dis donc, je travaille avec Monica Bellucci. C'est d'habitude, elle dit jamais rien.
C'est pour
et là,
le
elle
boulot,
a quand même fait, ah, purée.
Mais c'était tellement mal parti avec le ah oh bah dis donc tu vas rire.
Oui.
Celui-là il aurait fallu le tester au restaurant.
Toujours du côté dans l'appartement. Alors dis donc, incroyable on m'a téléphoné.
Alors la machine à raclette, tu l'as acheté. Le toast. Monica Bellucci va m'embrasser.
Et la radio est filmée.
Parlons de Guy, donc ce nouveau bon, très bon long métrage que vous réalisez qui sort demain au cinéma. J'ai été scotché par l'histoire, par la réalisation, par l'écriture, par votre jeu, par l'émotion, par les chansons qui sont dedans aussi, qui sont d'une justesse.
Caresse.
Ah oui. Ah bah alors Caresse, elle est là, Caresse gelée.
Quand la lumière s'éteint, nos corps ne font plus qu'un. Quand ta peau était sale.
C'est bien ça.
C'est peut-être la plus proche d'Herbert Léonard, parce que évidemment le réflexe, et je suis désolé, mais j'imagine que toutes les interviews, tous ceux qui ont vu le film
cherchent
quelqu'un.
Bien sûr, oui.
Et chacun a son...
Son Guy Jamais dans le cœur.
Ouais,
il faut expliquer qui est Guy.
Alors Guy Jamais est un chanteur de 72 ans déjà.
73, même 14 plutôt.
Comme le temps passe
vite. Depuis le tournage, il a vieilli.
Ça démarre malheureusement par le décès de la maman du réalisateur, du journaliste, qui découvre dans un courrier qu'il serait peut-être le fils caché de cette star des années 70, Guy Jamais. Et donc il décide, sous prétexte d'un documentaire, d'un portrait,
d'aller à sa rencontre
et de découvrir qui est son père qu'il n'a pas connu.
Et il y va assez blindé. Il a passé son enfance à se moquer sans doute
de sa maman
qui écoutait ça en boucle. Je voulais que le journaliste incarné par Tom Dingler et 35 ans, 40 ans, avec une vie installée, parce que je voulais pas qu'il aborde le personnage avec avec de l'hystérie, d'une nouvelle, comme ça, voilà, il y a le décès de sa mère, il a son père qui existe, en rangeant les affaires, en l'aidant à faire les cartons, je me suis imaginé ça, il tombe sur une lettre où elle avoue ça, la lettre est même pas finie. Donc il se dit mince, bon voilà, il se retrouve avec cette voilà, non mais vraiment j'ai imaginé une lettre qu'elle a où elle s'est plutôt elle libérée de quelque chose,
point, oui.
Elle l'aurait mis dans un mode des travaux ou je sais pas quoi, et puis voilà,
je finirai ça plus tard.
Et je finirai ça plus tard. Mm. Et puis bon, il le découvre, c'est quand même un scud dans sa vie. Donc il comprend qu'il doit garder ça secret aussi pour son équilibre familial.
Non, pardon,
il a le droit en tant que journaliste d'aller quand même le rencontrer. Donc il y va très blindé, chargé de son ironie, en se disant non, pour moi ça va rien changer, ça reste.
Oui, puis avec un regard très actuel, très moderne, face à quelqu'un qui est un peu resté scotché. Soi-disant, dans les années 70, je dis bien soi-disant parce que il y a des regards caméra, et c'est là où votre jeu de comédien est entre autres sublime, c'est que quand vous regardez la caméra du documentaire, donc vous nous regardez dans les yeux, ce sont des moments de gêne, des moments où vous analysez, vous cherchez à comprendre ce que le réalisateur perçoit du moment qu'il est en train de vivre. Quand vous vous sentez ridicule ou justement ringard ou dans une situation un peu de malaise, hop là il y a un regard caméra avec tu me juges, toi, petit con.
Oui, il y a quand même de ça. C'est-à-dire que c'est bon, c'est toujours l'histoire de l'arroseur arrosé, voilà, c'est surtout la rencontre de deux lions, d'un jeune lion et d'un fringant et jeune lion et d'un vieux lion. Et en fait,
sauf que le fringant, il cherche pas à le dévorer non plus.
Non, hein, il cherche pas à dévorer, non. Mais il est malin, il sait faire, il a de la répartie,
de l'ironie,
un peu de l'ironie. Il pense qu'il ne va pas se laisser atteindre émotionnellement par cette chose dans sa vie. Voilà. Je l'imagine s'être amusé avec ses amis du banc de montage de sa salle d'éditorialiste en disant, dis-donc, c'est pas la dernière, mon père c'est Guy Jamais. Voilà. Et puis tout d'un coup, il y a quand même la force d'une rencontre, la force d'une vraie rencontre humaine.
Voir une complicité qui va naître.
Et une complicité qui naît.
On ne dévoile pas la fin.
Nuance,
parce que ce Guy, il est complexe. Il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
Il est beaucoup plus rock qu'il n'en a l'air. Plein de paradoxes. Le film est une ode à la vie, et à une vie en particulier, mais à la vie dans ce qu'elle a de. Voilà, moi, c'est ce qui me désole tout le temps, c'est de ne pas regarder les choses avec suffisamment de nuances, plein de nuances.
Vous avez écrit... C'est comme Nagui, il a une réputation de crétin, mais en fait... il est pas si idiot que ça.
Mais en fait,
il est pas malin, mais il est pas crétin.
Non, après, on se dit, mais non, pas
je crois que ton micro est ouvert. Alex, vous avez co-signé le scénario avec Anaïs Deban et Thibaut Ségouin. C'est le point de départ. Est-ce que c'est la quête du père, la rencontre d'un fils et d'un père, puisque l'ouverture du film, vous le dédiez à nos pères, ou est-ce que c'est un portrait, justement, d'un artiste des 70.
C'est plutôt c'est d'abord mon envie d'être très libre avec un objet de cinéma. Donc je me suis d'abord dit, tiens, un faux beau documentaire, quelque chose qui a l'air d'un beau documentaire de cinéma, on peut y raconter des histoires qui nous prennent le cœur, qui nous font rire, qui nous émeuvent. C'est possible, c'est pas une forme, c'est une autre forme au cinéma et c'est possible. Donc une fois que je m'étais décidé sur ce cadre du faux beau documentaire, et pas mockumentaire encore une fois, parce que pour moi c'est pas la même chose, je voulais juste vraiment m'inspirer de la forme de beaux documentaires qui m'ont bouleversé au cinéma, de Vivian Maier en passant par Six Feet from the Stardom, enfin plein de choses qu'on a vu ces dernières années.
Six Feet, formidable, sur les choristes de la pop et de la musique.
Voilà, où je me suis surpris à rire, à vouloir en savoir plus, à être pris dans des ingrédients pour le public importants, le suspense, l'émotion, le rire, voilà. Donc je me suis dit, tiens, cette forme, je peux y raconter une histoire. Et après, mon amour et mon plaisir dingue du portrait, j'ai eu besoin
un portrait d'une star de cinéma, d'une.
Oui, il s'est posé la question.
Portrait d'un homme politique, portrait d'un chanteur.
Je voulais que ça soit un artiste, évidemment. Et puis, il s'est posé la question d'en faire peut-être un acteur ou quoi. Mais quand même, l'industrie du disque, et vous en savez quelque chose, Nagui, c'est-à-dire que quand même, c'est pas de la petite chose. La chanson, même la petite chanson de variété, c'est pas une petite chose. C'est quelque chose de bien plus... avec les années religieuses, politiques, avec les décennies qui ont raconté l'industrie du disque. On peut commencer à parler de moments d'histoire et de notre histoire personnelle, mais nos histoires.
Ouais, notre
C'est la bande originale de notre vie, de la politique, de plein de choses. Et donc ça me semblait prendre la main et le cœur très très fort, un chanteur quand même.
Te souviens-tu de notre première fois?
Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses-là.
Te souviens-tu notre chanson d'autrefois?
Notre refrain.
Alors soi-disant. Dans le film, c'est Caresse qui est le gros succès.
Mais là, quand vous faites les deux voix, là, c'est remarquable. Hein, là, c'est fou. Hein.
Mais,
très bien.
Mais
très, très bien.
Moi, je trouve que le tube, c'est ce titre-là.
Alors, c'est ça qui est génial. J'ai présenté plusieurs avant-premières du film un peu. Et puis, cette question est venue à un moment donné sur la question du tube, pas du tube. Et c'est là qu'on se dit, purée, quand même, un tube, il n'y a pas de règles. Y a quand même, on fait un métier super où il n'y a pas d'algorithme. Demain, j'ai peur.
Mais il paraît que
le film va.
Non mais sérieux.
De quoi?
On avait donné il y a quelques années des règles pour arriver à faire un
tube. Oui, mais c'est ça qui est génial. Il y a eu des mecs aussi qui ont fait des règles pour qu'un film marche. Bon, on ne sait pas. Demain, il va sortir, j'en sais rien. Mm-hmm. Je prie le ciel, mais c'est tout. Pour un tube, je crois que c'est un peu pareil. Et combien de fois on a vu des interviews d'artistes qui disent « Bah non, mais ça, c'était sur le piano, on en faisait rien. » Puis tout d'un coup, on l'a enregistré, Michel a pris la guitare, Serge a pris machin.
C'était une phase B,
c'est devenu le tube. Et ben ça nous est arrivé. C'est quand même rigolo parce que là, on a tout recréé, ce chanteur n'existe pas, on a inventé sa biographie, ses chansons, ses amours, ses regrets, tout ça. Et évidemment, dans les chansons, on a fait nous-mêmes la hiérarchie pour raconter l'histoire des chansons. Et Caresse, à l'écriture, était pour moi le tube. Le tube absolu, en tout cas celui qui avait le plus vendu, celui que les jeunes et les plus vieux pouvaient facilement fredonner à l'évocation de l'artiste.
Que le public attend lorsqu'il vient en salle avec la vanne, c'est eux qui crient le titre.
Même s'il a fait plusieurs tubes. Et Daddy Dou est un tube aussi, mais qui racontait son histoire d'amour avec sa première femme. Mais pour moi, dans le récit dramaturgique, il n'avait pas la même importance. Et ben, tout d'un coup, ce tube nous a échappé. Les monteurs l'ont plus monté. les musiciens ont plus travaillé dessus.
Mais
je l'ai plus chanté.
Parce que,
c'est quand même dingue. Tout d'un coup,
c'est fredonnant, ça rentre dans la tête. C'est joyeusement ringard. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, mon Dieu, mais quelle horreur, quelle vieillerie. Et en fait, ça devient très sympa.
On se dit, quel sucre.
Mais ouais.
Et puis tout d'un coup, trop de sucre. C'est quand même sympa. Mais, dans le film, en plus, c'est montré, il en parle, il dit « c'est ma chanson préférée ». Et donc, il dit « ah bon, c'est ta chanson préférée ?» Il dit « oui, c'est une carte postale ». Alors, on voit le Scopitone qui naît avec cette chanson. Et effectivement, on la regarde en se disant « ouais, bon, ok, un Scopitone des années 70 ». Et puis, un peu plus tard, il la chante avec Dany. Il se retrouve à l'occasion d'une émission pour je ne sais quelle action, accompagné de Julien Clerc. Et il la rechante. Et là, la scène nous bouleverse. D'en parler, elle me bouleverse encore. Ils connaissent leurs gestes, ils lui allument sa clope. Et tout d'un coup, c'est un peu unplugged. Un morceau unplugged, c'est invraisemblable. Un morceau, n'importe quel morceau de divertissement, quand vous le reprenez en harmonie au piano ou juste à la guitare, c'est pas pour rien que tout d'un coup, Julien Doré va chanter la chanson de quand il avait repris...
Lolita.
Lolita. Même Lolita. Quand tout d'un coup, c'est... On découpe juste la chanson, ça redevient une petite poésie sans prétention, un peu naïve, un truc qui se vend
sans
pas forcément
sans être trop produit.
Nagui, quand il parle doucement, c'est intéressant, hein.
tu vas me lâcher un peu.
Non, je me suis rapproché de toi, c'est pour te pourrir.
C'est insupportable.
Faut salir ce studio qui est tout neuf. Mais je vais me servir de toi.
Quand vous avez décidé, il y a une douzaine de chansons dans le pour Guy Jamais, mais quand vous avez décidé de faire des chansons, vous avez demandé à deux musiciens qui vous accompagnent d'ailleurs dans le film au sens propre du terme, ils sont à la basse, la guitare pardon, et au clavier. Et vous accompagne aussi au cœur. Quelle a été la consigne? Vous leur avez dit, faites-moi des chansons ringardes, faites-moi des chansons à la années 70, faites-moi des chansons françaises, faites-moi des tubes. Qu'est-ce que vous leur avez donné comme consigne?
Je ne sais pas, je suis vraiment sincère avec ça, je ne sais pas ce que c'est la ringardise. J'ai toujours su assumer le goût que j'ai pour la chose, ce qu'elle est.
Alors,
un mariage, si je fais le avec plaisir. Et je sais juger la bonne et la mauvaise
Non, mais par exemple, une chanson française aujourd'hui ne dirait pas La vieille pendule qui est dans l'entrée continue de faire tic-tac. C'était Claude François qui démarrait par...
C'est ça, la pendule de l'entrée.
C'est arrêté sur midi. À ce moment très précis.
Effectivement. Tu m'as dit, je vais parler.
Ce que j'ai demandé, c'est de ne pas s'inspirer d'artistes existants, mais de modes de production.
Quand il y a le triangle d'or dans Caresse, excusez-moi, c'est une vanne à Herbert Léonard.
Ah oui, mais eux, après, ils ont été libres de pouvoir mettre ce qui... Mais moi, vous me demandiez les instructions.
Ok.
Je donnais plutôt des listes d'artistes ou de titres qui représentaient une façon de produire un morceau. Une façon de produire un morceau en 66, une façon de produire
comme
un duo
Sonny Chardin, voilà. Ou un duo Johnny et Sylvie.
C'est parce que dans l'orchestration, dans le choix des instruments, donc j'ai voulu respecter ce qui était les desiderata de l'industrie du disque en tenter pour construire la carrière artistique de mon personnage. Plutôt que de...
On écoute ?
Ouais.
Un peu.
Attiré comme les aimants, vivre la vie rêvée de jour. Passionnément, l'amour est un jeu d'amant, un jeu de main, un jeu de vilain. Je ne sais rien encore de toi. D'où tu viens, si tu viendras, mais je sais, mon bel amour, je t'attendrai. Ils se tiennent comme des rois en haut des collines.
Là, les arrangements, la flûte traversière, la batterie, on est avec du Jodassin, on est avec du Delpech de l'époque, du Jutron, exactement.
Du Jodassin,
exactement.
Oui.
Et alors, au-delà des chansons, l'interprétation d'abord, félicitations, c'est vous qui chantez, oui. C'est votre voix, vous n'êtes pas fait doubler de ce côté-là.
On a travaillé sa voix en plus, pour trouver sa voix dans les années 60, sa voix plus récente, quoi, c'était super à faire.
Mais c'est un formidable travail, en tout cas, très, très crédible. Et ce qui est encore plus crédible, ce sont les gestes, c'est la dégaine, c'est-à-dire il y a à la fois une espèce de professionnalisme de la part de ce chanteur qui a 40-50 ans de carrière. On ne sait pas si c'est de la nonchalance, du je m'en foutisme ou il faut bien que je le fasse, mais en même temps il a sa main qui vient prendre le fil du micro, il a le regard avec ses choristes, le petit clin d'œil au bon endroit, c'est ça. Et on ne sait pas s'il est saoulé de sa vie ou s'il est lui-même en train de jouer le personnage de la vedette qui est sur le plateau, ou si même dans son comportement, dans sa vie privée avec ses chevaux, avec Pascal Arbillot qui joue le rôle de sa femme, qui est peut-être même plus connue que lui en étant comédienne d'une série télé à succès, il a un comportement de star, de vedette auquel il se...
S'identifie.
Ouais, il s'identifie, il se prend même à son propre jeu par moment.
Mais en fait, c'est toute la question. Vous proposez trois propositions, 4, 5, 6 possibles. Et d'ailleurs, quand à un moment donné, il y a une engueulade entre Gauthier, parce qu'à un moment donné, ce vieux lion en a marre, finalement. Il a accepté d'ouvrir sa porte avec cette caméra. Puis au bout d'un moment, il dit « Je vois ce que tu filmes. Si c'est pour me filmer comme un vieux ringard, c'est bon, j'en ai vu d'autres. On arrête. »
J'ai compris. Prends pas pour un con.
Ouais. Après, il dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, on s'est engueulé. Allez, on continue, parce qu'il n'est pas rancunier. Et dans cette engueulade, à un moment donné, il dit, parce que Gauthier se défend quand même un peu, il dit bah, vous montrez votre propre caricature, donc moi je veux bien, mais enfin si c'est pour me montrer un type qui se met de la laque, qui fait 40 fois le même geste, qui fait même le plus important, c'est l'amour, et la réponse,
qui fait de la pub pour la laque, qui fait,
voilà. Et la réponse de Guy est assez troublante, il dit mais qu'est-ce que ça peut te foutre si c'est ce que je suis. Et effectivement, à un moment donné, quelque chose de beaucoup plus complexe, où l'image qu'on construit, elle est aussi constitutive de ce que l'on est. Au restaurant, il va dire je vais payer l'addition parce qu'il y a trois femmes. Alors tout d'un coup, ils vont faire des caisses.
Et qu'il drague. Mais effectivement, à la maison, du festival.
Il drague. Alors tout d'un coup, il a 22 ans. Et puis quand il rentre le soir avec la même espèce de nonchalance, il va dire je trouve pas où t'as mis mes mocassins. Bon voilà.
Il parle beaucoup plus lentement en privé que.
Oui, en privé, public. Il en fait des caisses parce que sa femme est plus jeune, donc il aime bien qu'on s'occupe de lui. Oui,
comme une espèce de dégaine à la Elvis Presley. Moi, j'ai vu du Sardou aussi beaucoup dans la dégaine, dans le côté machiste. Du mec, chacun est allé chercher forcément une vedette.
Chacun trouvera quel, quelqu'un qui l'associe.
Un bout de soi aussi, un bout de sa propre bande originale aussi, ouais. Et de ce qu'on a vécu avec ces musiques-là, avec ces années-là. En tout cas, c'est un bon film, félicitations.
Merci.
Super boulot, et y compris de vos équipes, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'il y a un travail de réalisation, un travail de maquillage aussi, c'est-à-dire qu'il y a la technique est au service
de l'œuvre. Ouais. De l'invention de l'imaginaire. C'était aussi... Encore une fois, c'est un hommage au public, aux vedettes populaires, une ode à la vie et une ode à l'imagination. J'avais envie d'imaginer plein de trucs.
On souhaite que ce soit un succès. Jean-Dominique Fesner, vous êtes d'accord avec moi? Il faut que ce soit un succès, ce film.
Une chose est sûre, cette histoire, j'ai adoré, hein, ça va marcher super, parce que c'est la vérité crachée du destin de ces vieilles stars aigres et méchants qui s'accrochent, ces vieilles stars que coachait mon cousin Dominique. Dominique, salue les caméras chez Radio Filmé. Salut Dominique, bonjour. Mais ce que c'est aussi, cher Nagui, c'est pour ma première émission de la saison, vous m'avez pas facilité la tâche.
Ouais. Pourquoi la tasse?
Faites pas l'innocent. Hein. Vous savez très bien à quoi je fais allusion.
Je vois pas.
Bah Agnès a évoqué ça tout à l'heure. Me faire venir le jour où Alex Lux. Alex Lux. Oh, ça m'épuise. Bref, me faire venir le jour où l'acteur et réalisateur de Guy. Je suis fâché là dire Guy. Guy, ça je pourrais le dire beaucoup.
Déjà, vous avez dit Agnès, vous n'avez pas dit Agnès.
Oui,
Urstel.
Ouais. Oh, alors là, c'est plus possible. Agnès, ça suffit. Mais bon, vous l'avez fait exprès. Vous me testez chez une mise à l'épreuve. Pas sympa. Ou alors, j'ai une vengeance de JNB, notre élac-chef, tout bronzé sous ses poils. En représailles de toutes les rocheries que j'ai balancées sur lui dans un passé récent. Du genre, revanche, Charles Gugus de Coulommiers, là-bas, il est caché. Je suis dit tout à l'heure dans le bureau, le JNB emmenait pas large. Nagui, en découvrant qu'Alex était l'invité, vous vous êtes écrié. Ah, il est gentil, Alex, mais pour notre deuxième émission, t'avais pas plus prestigieux? Je sais, oh mon maître, merveilleusement, aller au soleil de Russie. Mais toutes les vraies stars sont encore en vacances. Oh, pour une fois, tu as raison, JNB, je ne vais pas te frapper. Et en plus, sortir un film au mois d'août sur un chanteur ringard, c'est du suicide complet. Il faut savoir être charitable avec les nécessiteux. Alors, ok, pour Alex, je vais l'aider. Je suis enchanté de la vigie de l'Alex, et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé
Guy. La canicule n'a pas eu raison de vous.
Oh, j'ai survécu. Hein. J'ai beaucoup aimé Guy, parce qu'en plus, dans ce film, il y a des analogies insensées avec mon histoire. Mais oui, je vous raconte. Quand j'ai appris par ma mère que j'étais le cousin illégitime de Dominique Besnard, ça a été un choc. Comme il faisait du casting, moi j'ai décidé de faire du coaching. Oui. Coaching vocal. Et je suis devenu orthophoniste.
C'est ça.
Et d'ailleurs, pour conclure, j'ai bien envie de vous faire passer un petit test, Nagui. Répétez voir rapidement. Alex Lutz, Alex Lutz, allez-y.
Alex Lutz, 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 Alex Lutz.
Ah non, pas Alex Lutz, Alex Lutz.
Alex Lutz, non, voilà. On va arrêter.
Bon, allez, je vous lèche. Bonne émission. Tous mes souhaits, chers
messieurs. Merci.
La boule originale. Le sur France Inter.
C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes,
je chante,
ta doudi doudi da, et mon amour reste à toi.
J'ai pas suffisamment insisté sur le casting parce que vous avez évoqué Dany tout à l'heure ou Julien Clerc, puisqu'il y a Julien Clerc dans le rôle de Julien Clerc, il y a Michel Drucker dans le rôle de Michel Drucker, mais il y a aussi nombre de comédiens et de comédiennes brillants dans ce film. Sophie Ravel, c'est Pascal Arbillot qui le joue, Nicole Calfan qui est dingue de justesse en attaché de presse, Anthony Krantz des années 70, elle est formidable.
Oui, oui, et puis
c'est une sublime comédienne, hein, Nicole Calfan.
Sublime comédienne, ouais. qui a tellement vu de types de travail. Elle, entre la comédie française, les sketchs avec Jean-Yann, les téléfilms et les films pointus d'auteur. Ça c'est merveilleux. Ça donne quelqu'un qui a ça donne quelqu'un qui se branche et qui y va, et voilà. Et Pascal Arbillot qui est merveilleuse.
Pardon, et Nicole Calfan, dans sa vie privée aussi, on a vu passer des vertes et des pas mûres côté musique et côté chanson, et attachée de presse. Donc elle sait de quoi
elle savait
où aller piocher quelques réactions, notamment quand elle est dans un studio radio où elle est derrière la vitre pour donner des indications à son chanteur interviewé.
Pour lui rappeler les dates de gala, elle met un papier comme ça, et puis elle est très agacée. Elle montre qu'elle est très agacée de cette jeune chroniqueuse qui va dire du mal dans l'émission.
Et qui est Nicole Fironi.
Qui Nicole Ferroni.
Même si ça se passe à Europe 1 dans le... Oui. Mais on, bah, il faisait choisir Europe 1 parce qu'il fallait que tout soit un peu ringard dans le film. Il y a également... Oh, il fallait que je la fasse. Il y a également Dany, Élodie Bouchèze et j'embrasse et Sandra Sublet.
Il y a Marina Sanchez aussi, qui fait mon fils, mon vrai fils.
Oui. Il y a Julie Arnold, Patrick de Valette, Vincent Eden, Anne-Marie Vin qui fait également l'animatrice sur Virgin. Vous aviez donc un accord avec le groupe.
Photos dans Paris Match.
non, mais un pur casting d'une justesse. Comment par exemple Julien Clerc accepte de jouer le rôle de Julien Clerc en se mettant au piano et en travaillant les arrangements? Et pour connaître Julien Clerc pendant les répétitions, c'est exactement Julien Clerc au boulot.
Oui. Bah, en fait, je lui avais envoyé, enfin voilà, je lui ai demandé, on avait fait un Catherine et Liliane où elles étaient très amoureuses de lui. Elle le rencontre, elle disait, chantez-nous des chansons, j'avais des chansons. Donc elle le faisait chier, et puis lui chantait des chansons, puis au bout d'un moment, elle le faisait chier en lui faisant chanter deux chansons d'autres chanteurs qu'elle préférait. Et il a tellement joué le jeu, je me suis dit, putain, il est vraiment super sympa, et j'ai osé lui redemander, et il a dit oui.
Mais il apporte des arrangements, mais il y a l'improvisation ou pas dans cette scène?
Il y a beaucoup d'improvisation dans le film, de toute façon. C'est-à-dire que chaque séquence avait ses intentions de dialogue importantes pour l'objectif émotionnel de la séquence et de l'avancée de l'histoire. Mais je laissais toujours vivre les choses pour qu'il y ait un peu de l'accident.
Il y a une scène qui est frappante, c'est quand vous êtes dans le train et que vous mangez un biscuit et que le train s'arrête et que vous dites, voilà, je mange le biscuit et le train s'arrête.
Arrête de conneries, on n'a pas prévenu la SNCF voilà. Pour qu'ils arrêtent tout
le train. Et là, on se dit, ça, c'est de l'impro.
Ça, c'est du timing.
Et c'est du timing et ça irait très bien justement à une star comme ça qui a le pouvoir d'arrêter
le
des trains
de conneries.
Bon, j'ai adoré, c'est vachement bien, ça s'appelle Guy et non pas Monsieur Guy. Ça sort demain au cinéma, c'est signé Alex Lutz et on vous encourage à aller le voir comme on encourage maintenant.
À quoi faire?
Tadam, Agnès Hurstel. Ouais, là, 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 là.
En général, la première, c'est délicat.
Bonjour, enchantée, taisez-vous. Namasté, France Inter.
Content que vous soyez là.
C'est vrai?
Ouais, vraiment.
Namasté, Nagui,
namasté.
Petit patron.
Namasté,
elle a dit
namasté.
Petit. Namasté, pas MST.
Namasté, la laine divine de Daniel Morin ce matin jusqu'à moi. Namasté, les auditeurs, auditrices qui ont peut-être passé un été pourri à faire semblant d'être heureux en ménage sur des bouées licornes dans des posts Instagram et qui vont se séparer d'ici la Toussaint et tout envoyer péter. Hein. Namasté, la femme de Benalla. Namasté, Booba. Namasté, Caris. Namasté également le petit micro devant moi qui pue encore la bave de la chroniqueuse de la saison dernière. Souviens-toi, petit auditeur. Elle était stressée, elle était de gauche, mi-inconnue, mi-intello, mi-drôle, mi-moche. Nous sommes une armée nourrie au lait d'amande et clonée dans les sous-sols de la maison de la radio. Chroniqueuse de la saison passée, qui actuellement, si tout va bien, est toujours de gauche, tourne un film, attend un enfant ou fait un burn-out. Le mieux, évidemment, c'est les quatre en même temps. Namasté à toutes mes copines sous l'exomile. Et puis, namasté Alex Lutz. Je suis donc la nouvelle chroniqueuse mi-drôle, mi-moche, Agnès, enchantée. Et présentement, j'ai méga la trouille. J'ai méga la trouille, je m'embrouille d'abord parce que je rencontre enfin l'idole de mon enfance, Albert Algou. Non,
là,
je déconne.
Je flatté,
lol, non, je rigole, je vous connais pas.
Salope.
Encore, je ne vous connais pas encore. J'ai la trouille également parce qu'on m'a demandé de faire un billet drôle, je crois, et que je n'ai fait que chialer devant votre film. C'est vrai. Alors attention, c'est un énorme compliment chez moi, vu mon rapport très intense à tout ce qui est de l'ordre de la mélancolie, du temps qui passe, des chevaux, des poneys, voilà, namasté les petits poneys. Bref, j'ai adoré votre film. J'ai trouvé ça drôle, fébrile, extrêmement bien joué, c'est grossier avec panache. Non, ceci n'est pas la nécro de Nagui, mais bien ma critique de votre film, Guy.
Patron, c'était donc deux billets d'humeur. Ouais, deux billets d'humeur, le premier et le dernier.
Voilà, donc je finis.
Double
non,
pige.
Sans rigoler, j'ai trouvé les personnages féminins déments. Pascal Herbiot, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette femme.
Ouais,
elle est extraordinaire.
Immense,
en une réplique, en un cheveu frisé, dégoûtant, elle arrive, elle est hyper drôle, on la dessine, on l'adore. Bref, vous êtes très fort, vraiment j'ai adoré. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est trop gentil ce que je dis là? Je sens votre regard.
Non, c'est bien, c'est vrai, c'est juste.
Moi, j'assume. Voilà, moi, je n'ai pas été engagée pour faire du mauvais esprit, même si je sais que ça rassure les gens, l'ironie, le second degré permanent, la dépression comme nouveau snobisme. Je trouve ça dommage. Je trouve que les mentalités sont étroites. Voilà. Dieu merci, il reste autour de cette table des gens extrêmement dilatés. Mais non, ça n'est pas le sujet.
Encore
un verre. Restons groupés, attentifs, merci. Ensemble. Non, non, je m'engage ici à tenter chaque mardi matin un billet 100% sans cynisme. Une phrase extrêmement difficile à dire pour un dyslexique.
100% sans cynisme. Ah ouais, dis donc.
Sans cynisme.
Je vous propose donc d'être un genre de sophrologue de plateau.
Ouais.
Une accompagnatrice de fin de vie pour certains auditeurs.
Sympa.
Une sexologue pour Tanguy Bastureau, que sais-je. Bref. Je finis sur votre film. Ce que je préfère chez vous, Alex, dans votre travail, pas chez vous, je m'en fous complètement de votre déco, c'est quand vous chuchotez. Voilà, vous dites les mots les plus forts à voix basse, c'était étonnant, personne ne fait ça. Il y a ça dans le film quand Gauthier dit papa, je me fais hyper mal, papa, mais c'est chialade quand on regarde le film. Mais pas que, il y a ça aussi dans votre premier spectacle. À un moment, il y a un personnage insupportable en discothèque qui dit que des conneries, et dans la musique très fort, il dit à voix basse, faut pas avoir peur. Je le fais hyper mal. Ça me hérissait les walpes. Et donc moi, aujourd'hui, en tant que médiatrice de bonheur de la bande, je vous invite ce matin à dire à voix basse, faut pas avoir peur. Allez-y, Daniel, Albert, n'ayez pas peur de dire que vous avez un peu peur. Chuchotons,
peur.
Voilà, tous ensemble, ce qu'on ne dit jamais à voix haute. Faut pas avoir peur.
Mais
moi,
en même temps, ça fait encore plus flipper.
Ça dépend, bah, évidemment, si tu fais, faut pas avoir peur.
Non, même.
Non mais de quoi avez-vous peur? Moi je me lance.
C'est mille louis,
j'avoue, j'ai peur de croiser Augustin Trapenard dans les couloirs.
Ah ça je comprends. Je n'aime pas
les enfants de ta sœur. Je n'ai jamais regardé Friends. Je t'aime, ça ira, tu verras. J'ai tout le temps des cystites. Voilà, faut pas avoir peur. Et déjà, je trouve que ça va beaucoup mieux dans le studio. Namasté.
Bravo Agnès. Bon, exceptionnellement, tu pourras revenir la semaine prochaine.
Dans le public.
Mais c'est la dernière fois.
Elle est démente, la sensation, une fois que c'est passé, non?
Ah ouais,
là, t'as envie d'aller en boîte et tout, évidemment.
Et de dire
n'aie pas peur. Pour la précision, c'est vrai que le documentariste ou documentaliste dit papa à Guy Jamais, lorsque Guy Jamais est très très loin, évidemment.
Ouais. Il a 200 mètres dans son jardin.
Mais même Guy, à un moment, je sais plus, vous dites un truc à voix basse aussi qui est dingue, mais évidemment, le lien n'a plus fonctionné, donc j'ai pas pu regarder.
Non, mais il faut d'abord que chacun découvre le film et chacun le prenne pour soi. Et il y a aussi d'autres éléments dont on n'a pas parlé, c'est vrai, les chevaux omniprésents dans votre spectacle.
J'ai envie qu'ils soient avec moi tout le temps maintenant, d'une manière ou d'une autre.
Non, il est où là?
Ici c'était compliqué.
Il y a bien des artistes qui avaient des espèces de manies, de je sais pas quoi.
Le cheval, c'est beaucoup quand même.
Il y aura toujours un cheval.
Oui, enfin, c'est une manie qui impose des moyens particuliers.
Ouais, je prendrai des chevaux miniatures américains au besoin.
Et albinos par moment.
Et albinos. Non mais c'est un animal qui me bouleverse et je trouve qu'il raconte plein de choses sans avoir à raconter plein de trucs.
Et la communion qu'il y a entre ce Guy Jamais et ces animaux, la manière dont il leur parle, la manière dont il est extrêmement proche, montre un autre côté du personnage.
Et puis une sa farouche besoin de liberté et de danger, de risque.
On va revenir évidemment reparler.
Ça t'intéresse pas ce qu'il raconte
Si, il a opiné du chef.
Moi, je l'aurais mal pris.
Ah, tu trouvais que c'était un opinage
La bande originale d'Alex Lutz en 92-93, tout gamin, vous écoutiez Higelin.
D'où viens-tu, ô ma tendre merveille, mon amour absolu.
Chanson qu'il a faite pour la naissance de sa fille,
Poésia,
qui elle-même d'ailleurs vient de maman.
J'ai des rêves étoilés.
Vous écoutiez vraiment cette musique quand vous aviez 14-15 ans?
Oui, grâce à ma sœur. Ma sœur, elle m'a appris plein de choses sur... mes parents avaient une culture musicale plus anglo-saxonne. Ça s'accorde,
ouais,
je pense.
Ouais. Avec culture, oui.
Oui, bah oui, du coup. Et elle m'a plus sensibilisé à des artistes francophones, Renaud, dont j'ai beaucoup parlé, qui était très important pour moi. Mais Higelin...
Vous dites qu'il vous fait pleurer chaque fois que vous écoutez Renaud.
Ouais, Renaud, c'est très fort, mais c'est quelque chose de plus. Je l'ai découvert tout petit, assez petit. Il y a quelque chose, j'arrive même pas à l'expliquer. Et Higelin, c'est la poésie, quoi. C'est le pari de la poésie et de la poésie qui peut fonctionner auprès du public. Et je trouve que c'est important de.
Vous avez dit dans une interview que vous n'aviez pas eu une enfance qu'on pourrait qualifier d'heureuse ou de.
Ah bon?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Dans l'Express encore.
Ouais, c'est dans l'Express, exactement.
L'enfance malheureuse. J'ai dû m'en raconter ça à un moment donné en me disant
que je me sentais malheureux.
Quoi?
À l'école.
Ah, à l'école. Bah, c'est pas mon enfance.
Ah oui, c'est pas l'enfance. À l'école, vous n'étiez pas heureux.
Ah non, j'aimais pas ça. Non, j'aimais pas ça. Et pourtant, je défends l'école et tout ce que vous voulez, mais j'étais pas, là, je me sentais pas bien.
Et alors, vous êtes senti mieux au théâtre? Comment le théâtre est arrivé dans votre vie?
Par erreur.
Par une erreur d'orientation. Je voulais faire A3 dessin. A3 pour ceux qui
sont,
qui datent encore du 20e siècle. A3 dessin, donc littéraire dessin. Et je sais plus ce qui s'était passé, ça s'était mal goupillé pour mon entrée en seconde, et on m'avait dit, mais alors, s'il fait du théâtre, il pourrait intégrer une première théâtre pour finir en terminale dessin. Enfin, un truc nul. Mais, je me suis inscrit à un cours de théâtre, du coup, et tout d'un coup, j'ai pris une belle claque de ce que je dessinais, tout d'un coup était en relief, en mouvement, et voilà. Et c'est venu comme ça. Et
ça vous aide par exemple pour la réalisation,
le dessin, oui.
Ouais, le storyboard, de savoir quels sont les cadres,
les dessins de costumes, de maquillage, de tout ça, oui, bien sûr, je m'en sers. Mais c'est pour, voilà, c'est une chambre à moi, j'aime bien.
En 2005, vous écoutiez Dani, votre copine, et Dao. Je sens des boum et des bang, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang. Des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. On connaît pas bien Dani dans sa vie quotidienne. Elle est d'une sensibilité incroyable, à fleur de peau. Elle est géniale. Elle est juste aussi, comme le précisait Agnès aussi. Les rôles féminins sont bien servis dans le film aussi. Enfin, tous les rôles sont bien servis.
Et puisqu'elle ramène quelque part. Ouais. Quand elle rentre dans une pièce, Dani, vous dites quand même, a priori, c'est une personnalité. Attention.
Quoi. Même quand elle arrive en retard.
Ouais.
Toujours.
Elle rend fou. Il est encore
il
fou d'elle.
Il retient tout, hein, Nagui.
Guy jamais encore fou. Ah, et encore fou de cette Anne-Marie. Très très fort, oui. Ça sera la femme de sa vie jusqu'au bout.
En 2005, vous avez donc, tout à l'heure, Albert Algout en parlait, mis en scène et co-écrit La cerise sur le gâteau avec Sylvie Joly.
Mais Boomerang a un rapport avec ça, parce que quand je l'ai rencontré, on n'arrêtait pas, je sais pas pourquoi, on n'arrêtait pas de rigoler en chantant cette chanson avec tous les accents possibles, Sylvie et moi, et c'est comme ça qu'on a énormément ri, et c'est comme ça que s'est tissée la relation. Sur un tournage où on s'emmerdait de temps en temps,
Malone, c'est ça ?
Sur Malone, oui. Et moi, je faisais répéter les acteurs pour leur texte, et Sylvie, je la faisais répéter, mais on rigolait surtout beaucoup. On était très mauvais.
Quel artiste extraordinaire.
Immense.
Quel rapport vous avez ?
Elle me manque terriblement.
Quel rapport vous avez aux femmes, justement ? Celles que vous faites travailler, celles que vous observez, celles que vous aimez, celles que vous. Parodier, parce que il y a peut-être des femmes qui n'ont pas compris les vannes de Catherine et Liliane et qui pensent que vous moquez d'elles en permanence.
Non.
Quel regard vous avez sur les femmes?
Un regard égal à ce que j'ai sur les hommes. En tout cas, je me sens autant féminin que masculin. C'est-à-dire, c'est pas une étrangeté pour moi. Si bien que je ne dirais pas les femmes, par exemple. Je
trouve que c'est comme une catégorie
à part.
Le
côté la mère de mes enfants, les femmes, il y a des connes et il y a des super et il y a des merveilleuses et il y a des plus et des inspirantes, des courageuses, des machins. Voilà, j'aimerais qu'on les regarde une espèce de concept un peu ou grande statue ou mal respecté.
Et Guy Jamais, lui, il est comment avec les femmes?
Ah, je crois qu'il est beaucoup plus respectueux qu'il n'en a l'air. Après, il est très vieille école. Donc, effectivement, il va avoir un côté je sors le portefeuille, je trouve pas mes affaires, il couche beaucoup. Après, il est d'une génération où. Mais c'est quelqu'un qui reste ouvert jusqu'au bout, quoi. Donc, qui apprend. C'est pour ça qu'il y a une scène où je venge un peu Pascal, le rôle de Pascal Arbillot, où tout d'un coup. Il est dans un exercice de mauvaise foi absolue parce qu'il a pas noté un rendez-vous et vu que elle a l'air d'être une nénette à chien au début du film, et je voulais vraiment que aussi il s'en prenne un petit coup derrière la nuque, parce que il sait très bien ce qui fait de bien et ce qui te fait de pas bien. C'est-à-dire que je crois pas qu'il y a un macho qui n'est pas conscient d'être macho. Après, on a laissé la possibilité à ça.
Oui, et il fallait que dans l'idée du chanteur qui séduit son public, parce que c'est un chanteur à femme un tout petit peu, quand il chante caresse, passionnément, sans un regard, homme et femme, son premier public est d'abord un public féminin, il fallait aussi pour apporter de l'eau au moulin de l'histoire, c'est-à-dire d'avoir des enfants illégitimes, qu'il ait fauté avec une fan, avec quelqu'un autour de son métier, il fallait que ce soit un métier artistique proche, trop proche du public par moment pour donner le coup d'envoi de la quête du père.
Mais ça fait partie, encore une fois, de cette industrie du disque qui a, en plus des morceaux, véhiculé une mythologie et quasiment une éducation des chanteurs.
Le cinéma aussi, je pense que...
Si vous regardez comment la carrière de Mike Brand, par exemple, était suivie jusqu'à quand même le pire, c'est-à-dire que le récit de son faux accident, ceci, cela, bon, ben voilà, c'est des gens qui, à 20 ans, étaient pris pour faire des choses qu'on mettait dans des.
Qui chantaient des chansons en phonétique sans savoir ce qu'ils chantaient.
Voilà, qui chantaient en plusieurs langues. Cette image installée devait. Enfin, c'est troublant parce que cette image devenait la leur et devenait leur identité. Mais c'était des choses très construites au départ. C'est pour ça que Guy voilà, est un grand infidèle de gala en gala. Mais après, c'est quelqu'un qui a grandi et a appris avec son métier. C'est son éducation, son métier.
On va parler musique encore avec Jean-Pierre Pascalini. Merci Jean-Pierre de venir à ce micro. Vous êtes journaliste, animateur radio, télé, directeur des programmes de Mélodie TV. Une chaîne qui vit justement avec ses souvenirs, cette nostalgie de la musique. Et pas uniquement parce que vous n'êtes pas resté coincé dans les années 60-70. Ça peut être beaucoup plus proche de nous en termes de programmation.
Faut oui, préciser. 90.
Voilà. Vous avez vu le film Guy. Est-ce que, alors, la même question que celle que n'importe quel spectateur se pose en sortant de la salle de cinéma. Est-ce que vous avez vu un chanteur en particulier, vous, dans ce personnage de Guy Jamais ?
J'en ai vu plein. J'ai trouvé ça très amusant, mais encore plus émouvant qu'amusant.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
J'ai trouvé ce film vraiment criant de vérité pour avoir depuis 25 ans interviewé Herbert Léonard, Dave, Patrick Juvet, Michel Delpech et tout le monde. Je les ai tous retrouvés tour à tour. Alors quelquefois, on voit des pochettes 60s de vieux EP qui sortent d'un placard, l'ami Guy. Donc évidemment, je me projette plus avec des Pascal Danel ou des chanteurs des années 60. Mais c'est vrai que ce qui est formidable, c'est l'ode à ces chanteurs qui sont réhabilités dans ce film.
Parce ce qui vous a touché, c'est de voir le passage de la notoriété, de l'énorme succès, au questionnement de savoir où j'en suis maintenant, pourquoi je m'accroche peut-être encore à ce micro en faisant des tournées, des comebacks, des nouveaux albums, des remixes.
Ce qui m'a touché, c'est
il y a un moment dans le film où il dit j'ai pas de nouvelles chansons, ouais, je chante toujours les mêmes, et on sent que la question.
Et même les Rolling Stones le font, hein. Faut savoir que les Rolling Stones font des tournées best-of. Faut arrêter de penser qu'il y a que la variétoche qui fait. Il y a pas que la variétoche qui fait ça.
Non,
quoi,
il dit n'importe quoi. Il y a quand même des nouveaux albums de Rolling Stones.
Oui, mais en tout cas, allez voir une tournée des Rolling Stones. Vous verrez que c'est un best-of. Liam Gallagher, il y a deux jours à Rock en Seine, il a chanté tout Oasis. Hein. Donc c'est vrai que arrêtons de dire qu'il y a que les chanteurs
alors
de variétoche. voilà, il y a pas que les chanteurs de variétoche qui vivent sur leur passé. En plus, regardez, c'est pas plus facile pour un ancien rocker, Bertignac, pour parler de lui, qui a beaucoup de talent. Bon, bah, il a fait un talent show.
Il a baissé.
voilà, donc c'est vrai que c'est pas propre aux vieux chanteurs de cachetonner, parce que évidemment il a des problèmes de fric. Moi, ils m'ont tous parlé de leurs problèmes de fric.
Oui,
et ce film est d'une justesse incroyable, parce que c'est vrai que je les ai tous connus avec ces problèmes-là, à dire bite-couille facilement, parce qu'ils ont tous un peu une culture du cul dans ce milieu du showbiz, et ils ont tous à la fois ce côté très émouvant. Et quand, après tous ces fans qui les idolâtrent, ils rencontrent un jeune homme qui leur parle vrai, je les ai tous vus réagir. On pense qu'ils sont inaccessibles, pas du tout. Si quelqu'un vient vers un vieux chanteur et lui parle vrai comme ce jeune homme, ça sort de tous ces fans qui le mettent sur un piédestal, ça leur fait un bien fou. Même quand ça cartonne d'ailleurs, même quand ils s'engueulent, et dans le film on voit cette engueulade, vous
elle
êtes une caricature,
saine, oui,
elle est très saine, et ces vieux chanteurs, ils adorent, ils sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense. Parler avec Dave, vous verrez qu'il a un humour fou. Ils sont souvent très loin de leur chanson. Vanina, c'est peut-être un peu kitsch, mais quand vous parlez avec Dave, c'est pas un mec kitsch.
Dave, pour un exemple de type qui a une culture incroyable et littéraire et
beaucoup d'ironie, d'autodérision,
beaucoup d'ironie, ouais. Un instrumentiste de malade, lui quand il a repris, on parlait de certaines réorchestrations de certains de ses tubes, c'est des merveilles. Voilà, bien sûr, c'est ce que j'ai aussi modestement voulu amener dans le film.
Il est très cultivé, Guy, il écoute César Franck,
il est très au clair et tout à fait dans ses bottes entre son répertoire et sans doute ses rêves de répertoire.
Et il n'est pas le seul. Il y a plein de vieux chanteurs qu'on pense être ringards qui ne le sont pas du tout.
Mais quelle est la définition de ringard?
Ça ne veut rien dire, ringard. C'est ça, moi je
qu'on pense ringard.
Non, mais ça veut dire quoi?
Ça ne veut rien dire.
Ah ben, aujourd'hui, il y a peut-être toute une culture de la chanson qui est un peu boboïsante. Mais c'est vrai, quand vous regardez Les Enfoirés, il n'y a que des tubes kitschouille qui passe. Hein. Toutes les émissions de nostalgie surfent sur les chansons qui nous sont rentrées dans la tête de gré ou de force.
En fait, dès l'instant où une chanson a été populaire il y a quelques années, elle l'est forcément des années après ringarde. C'est si j'entends votre définition.
Oui, mais d'un autre côté,
pour devenir culte dix ans après.
C'est ça.
Il faut souvent mourir pour devenir culte.
C'est ce qu'on demande à Nagui tous les jours. Est-ce que tu peux pas crever pour devenir culte et revenir après?
Regardez Maurice Chevalier, elle avait le tout petit téton Valentine. Aujourd'hui, il a des soirées théma sur Arte. Même Lynn Renaud a des soirées théma sur Arte. C'est bien la preuve qu'il faut un certain temps pour digérer cette jeunesse que chacun de nous, on a souvent le sourire. Il y a les enfants des années 80, ils sourient quand ils voient Dorothée.
Dans 20 ans, quand ils entendraient 2 heures de folie, ils sont là, c'était merveilleux. Ben voilà.
Ouais. Jean-Pierre, est-ce que tous ces artistes qui ont eu des succès dans les années 60, 70, 80 sont encore en tournée, font encore des spectacles, sont sur scène, ou certains ont vraiment rangé la guitare, le piano, le micro en disant maintenant basta?
Ils l'ont rangé de force, alors quelquefois on leur tend la main, comme la tournée Ashton qui a fait revivre Nancy Holloway qui avait chanté T'en vas pas comme ça dans les années 60, et Michel Orso. Il y a des tournées comme ça où ils sont à plusieurs pour remplir une salle, et puis il y en a beaucoup qui ont la chance d'avoir des mairies qui les payent pour aller chanter sur les places publiques, parce que c'est vrai qu'ils n'arriveraient peut-être pas à vendre des tickets de concert, mais en revanche la mairie paye le chanteur et il y a 5000 personnes sur la place du village.
Mais alors, ça, concrètement, puisque le problème de l'argent aussi est évoqué dans le film. On peut penser que ces stars ont eu des fortunes dans les années 60-70. Ils les ont dilapidées, ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils gagnaient.
C'est ceux qui écriraient les chansons
On a beaucoup rajouté de zéro pour faire rêver. On a fait rêver le public avec des millions de disques. Souvent, c'était très exagéré. C'était du marketing. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas vendu 80 millions de disques comme les Beatles. C'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'on a rajouté les chiffres pour leur marketing. Et aujourd'hui, tout le monde a l'image de gens très friqués. Dans ce film, c'est très bien montré. Il a une petite maison en Provence qui déçoit d'ailleurs le jeune journaliste qui est son fils. Et c'est vrai que tout le monde s'attend, quand on parle à Patrick Juvet, qui vivent dans un château. Non, ils ont gagné beaucoup moins d'argent que ce qu'on imagine.
Et quand vous écoutez, alors pour parler de la musique, quand on entend ce succès, parce que pour moi c'est un succès.
De notre première fois.
Il se fout de la gueule de Clo-Clo dans le film aussi.
Oui, enfin, le personnage n'aime pas Claude François parce qu'il
a été jaloux et il l'avoue.
Il n'aime pas sa voix nasillarde. Voilà.
Alors qu'il en a une qui est bien dans le nez quand même.
Je pense qu'ils ont tous des aigreurs, hein, ces chanteurs-là. Ça aussi, c'est bien.
Mais vous êtes d'accord avec nous? C'est un succès, cette chanson.
La chanson à la manière d'eux, c'est... Ouais. Ah oui, j'adore. J'adore. Dans le film, il y a, je crois, une adaptation, Montréal.
Il y a Dolly Parton, Un slow avec la lune.
Voilà, qui est magnifique. Le texte français est vraiment très très bien. Oui,
et puis, Dolly Parton est là.
Dancing with the moon.
Ça, c'est la version originale.
Voilà. Et lui, chante Un slow avec la lune.
Et vous reprenez aussi. Je
reviendrai à Montréal. Oh là là, ça, moi, je peux pleurer comme un veau pendant des heures.
Vous l'imitez super bien.
Ouais, je le fais bien.
Et pourquoi vous l'avez reprise? Et
parce que ça me fait penser à mon institutrice qui nous a appris cette chanson quand on était en CM1. Et elle a été la parenthèse enchantée de l'école, Françoise Reinbold, pour rendre à César ce qui est à César. 2 ans avec elle, CM1, CM2. On la voit encore, on a des nouvelles. Je viens de fêter mes 40 ans, à tous les ans, j'ai le message.
Tout. C'est chouette. Hein.
Elle est partie à la retraite avec, je crois, 200 gamins et forcément des plus âgés, quoi. Voilà. Et elle nous avait appris cette chanson.
Merci Jean-Pierre Pasqualini d'être venu apporter vos connaissances musicales. Mélodie TV, je le rappelle, c'est à vous quoi en fait, hein. Vous êtes l'hôtelier.
Mais on a tous ces chanteurs-là qui ne sont pas ringards et qui existent dans notre tête et dans notre cœur, et c'est ça, quand ça touche au cœur, c'est immortel.
Il n'y avait rien de perso, Nagui n'aime pas les gens, c'est tout.
Je suis totalement d'accord avec vous.
On a même rendu hommage à Taratata.
Je sais.
Là, ça devient ringard.
Et sans me prévenir, vous voyez, je suis pas rancunier.
Non, mais il le dit quand même.
Moi, je tiens à dire l'anniversaire, il était dément l'année dernière. Je tiens à dire ça.
Merci. Ce que je trouve remarquable, et je pense que Internet, le streaming et YouTube aident beaucoup à ça, c'est que maintenant, les générations découvrent des chansons, toutes générations confondues. Je me rends compte, on n'oublie pas les paroles, il y a des gamins de 18-19 ans qui connaissent par cœur les Joe Dassin, les Delpech, Claude François, qui ne se demandent pas de quand ça date ou c'était quand. Ils aiment ou ils n'aiment pas, ils connaissent.
Mais une grande mélodie est éternelle.
Exactement. Merci Jean-Pierre Pasqualini. Merci. Tanguy Pastureau nous a rejoint. Bonjour Tanguy. Le pape François prend l'avion et il parle en avion.
Et oui, quasiment à chaque fois, il fait une conférence de presse. Hein, il ne parle qu'en avion, en fait. Hein. Quand il est sur le sol, il est obligé d'imiter avec son corps une salière pour qu'un ami lui passe le sel. Et le souci, c'est qu'il est comme Christophe Barbier sur BFM TV. Il est capable de parler tout, mais mal.
C'est ça. Et nous, on en reparle après les infos de midi. Oui. C'est la bande originale. Merci de nous rejoindre avec Agnès Hurstel, toute nouvelle, Tanguy Pastureau qui est là.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Daniel Morin, indécrottable. On embrasse Leïla qui se soigne. Notre invité est Alex Lutz.
Alex.
Pour ce film Guy avec Pascal Arbillot qui, comme l'a souligné tout à l'heure, Agnès est absolument formidable. Elle est toujours et tout le temps formidable, y compris quand elle participe à des clips où parce qu'elle a fait, je sais plus dans quel clip elle était, ça va me revenir. Si, c'est dans Big Flo et Oli où elle a juste un plan d'une maman qui est malade avant de rentrer à l'hôpital, mais elle est, même quand elle ne parle pas, quand elle joue en silence, elle est formidable. Ouais. Les regards.
Ouais, c'est là qu'elle est la mieux hein, quand
non,
elle.
Non, tais-toi, salut.
Elle a fait plusieurs émissions ici. Et c'est vrai qu'à la pause, elle était très bonne.
Nicole Calfon, qui est absolument formidable. Dany, Élodie Bouchez, Marina Hans. Vous les avez choisis comment ces comédiennes? Parce que j'imagine que vous avez un carnet d'adresses de copains, de copines dans le métier qui est assez épais et ça doit être délicat de faire des choix aussi.
Oui. Par amitié, effectivement, et par je savais qui me ferait confiance à un univers particulier et un cahier des charges sur le papier, justement. Bon, voilà, ce faux documentaire, ce vieillissement, ce scénario qui ressemblait davantage à un séquencier de documentariste qu'à un scénario classique. Voilà, il fallait que j'ai des copains solides et je savais que voilà tous ces gens-là le seraient. Pascal, effectivement, vous en parliez, elle est invraisemblable. La première scène où elle parle de ses chihuahuas en disant
au début on ne sait pas de qui elle parle. D'ailleurs.
Oui,
et puis
elle dit qu'elle fait de l'astrologie canine. Alors on peut rigoler et en même temps elle rougit à vue d'œil. Elle a presque les larmes aux yeux. Et elle est juste mal à l'aise avec cette caméra. Et voilà, elle arrive à mêler 1900 nuances dans une intention de jeu. C'est une immense actrice. Il y a quelques années au théâtre, dans Cadry, ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle n'était pas à 40 degrés de fièvre sur scène, elle était à 40 000 degrés. C'est incroyable, cette actrice. Nicole Calfon, une intelligence de jeu de dingue. Je me suis fait plaisir avec ces acteurs.
Comment
David
convaincre
Salle,
Élodie Bouchez de venir chanter un duo piano-voix?
Marina Hans aussi.
Avec
qui fait
vous,
juste.
Ouais.
Bah parce que il faut aussi reprendre l'amusement pur de ce métier. Je trouve que tout d'un coup, la stratégie du métier a pris un peu le pas sur l'amusement. Je ne sais pas si je suis nostalgique, mais enfin, quand on entendait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas d'ailleurs, mais quand on entend des artistes d'il y a quelques décennies, dire eh bien alors, je lui ai demandé de faire un petit passage et c'était super. Et voilà. Et tu dis oh merde, nous on galère. T'as appelé six agents, 200 attachés de presse. On ne sait plus où on en est de sa carrière, mais comment.
Parce que l'image a pris le pas.
Je ne sais pas ce qui a pris le pas. La peur.
Mais il y en a peut-être qui s'en fichent quand même.
Justement, il y en a qui de temps en temps s'en fichent. Et je crois qu'on est nombreux maintenant à vouloir aussi dire tu sais quoi, moi je fais juste confiance à un univers, j'ai envie de raconter une histoire. J'ai envie d'être artiste, quoi, c'est tout. Et donc, du coup, bah, bah, on les convainc comme ça aussi. Il y a Anne-Marie Vin que j'adore. En plus, j'ai pas été super loyal sur ce coup-là parce que j'avais parlé d'un autre rôle, mais après, en regardant l'équilibre des rôles, on
ah oui,
s'est
en fait,
rendu
vous
compliqué.
Mentez. Ouais, ouais.
Non, non, mais il y avait une histoire de génération des rôles et tout. Bon, mais elle m'a fait le plaisir de faire juste Marie-France, cette présentatrice de Radio de Nuit. Elle est formidable. Elle est juste. Même là, elle amène un personnage. Un amusement d'acteur, faut qu'on s'amuse. C'est
déjà à la base, prendre des bons comédiens qui jouent dans un bon film, ça aide aussi à ce que ça se passe bien. En plus, il est bien réalisé. Ça, être devant et derrière avec ce maquillage.
Je savais. Regardez Daniel, il vient de faire un truc avec la tête.
Ouais.
Devant et derrière. Je vous ai vu.
Mais vous êtes un grand malade.
Non, je vous ai vu.
Pas du tout. J'aime regarder Nagui, ça me repose.
Il voulait souligner la vanne devant derrière. C'est avec un maquillage extrêmement bien réalisé. Je cherche et je vais le retrouver.
L'atelier Spadaccini, qui sont formidables pour l'atelier de maquillage.
Jean-Christophe, c'est ça?
Oui, Jean-Christophe Spadaccini, qui est merveilleux. Et ils étaient deux maquilleurs tous les jours.
Laetitia Kilry et Geoffroy Felet.
Voilà.
Catherine, c'était qui?
Le Catherine est très important, le Catherine.
Bah oui, mais alors le Catherine, moi, j'y étais jamais, figure-toi. Je ne sais même pas, puisque j'étais sur cette chaise de maquillage.
On le voit sur l'affiche, c'est une espèce de mélange à la mâchoire comme ça en avant entre Belmondo, Philippe Labro aussi par moment. Je me demande auquel des deux vous ressemblez le plus, mais enfin c'est un beau mélange. Hein. Labro, Belmondo, ça va. Il n'y a pas de faute de goût. Comment faire ce rendu, cette justesse-là, ça prend combien d'heures?
C'est la qualité de leur travail dans ce studio. Et puis moi, dans mes envies, c'est un dialogue. Moi, je voulais qu'il y ait une légère asymétrie dans le visage, une petite cicatrice sur le côté. Je l'avais dit qu'il avait eu un léger AVC. Enfin, si tant que ça peut être léger, mais un AVC sans grande conséquence il y a 2-3 ans. Un mec qui vit dans le sud, qui a le soleil tout le temps, on s'en fout un peu parce qu'il est à cheval.
Donc il y a des taches de vieillesse sur la peau.
Et moi j'aime pas la symétrie dans les vieillissements souvent ou dans les trucs de latex et tout. Je trouve que souvent c'est trop parfait. C'est comme les perruques. Je trouve que le travail d'un bon perruquier, c'est un perruquier qui va être capable de créer de l'épi, de l'accident, du contresens dans le sens du mouvement du. Voilà. Sinon je la vois à 100 000, je suis d'accord, c'est une perruque, ça me fait chier. Et ils ont fait quelque chose. Voilà, cette matière dans les mallettes qu'on ouvrait tous les jours avant de me les mettre sur le visage, était déjà vivante, tellement bien faite, tellement bien travaillée. C'est des génies. Ouais.
C'est réussi. On va reparler évidemment de l'histoire, parce que là, on a parlé plus de la forme que du fond. On va reparler de l'histoire dans quelques instants. Mais d'abord, voici Tanguy Pasturo. Sur Inter. Voilà. Tanguy, depuis hier, le pape François suscite des réactions enflammées.
Oui, il fait le buzz, François Saclache, il va finir chroniqueur chez Pascal Pro sur CNews. Avant-hier, il est dans son avion, de retour d'Irlande, où il tient une conférence de presse. Il peut pas faire comme tout le monde, végéter à la cool sur son siège, à mater un mauvais film avec Kev Adams, enfin, un film avec Kev Adams, comme nous, quoi. Hein. Nagui en business sur Emirates, nous autres en écho sur XL Airways avec les genoux dans la gueule afin de tenir dans les 40 cm3 qui nous sont alloués. Non, François, il faut qu'il s'exprime. Or, rien de bien n'est jamais sorti intellectuellement d'un voyage en avion. Même Saint-Exupéry, quand il a écrit Le Petit Prince, n'était pas en train de voler, sinon il se serait craché comme une buse. Dans l'avion, on ne pense qu'à des choses nulles, comme au bilan de Nicolas Hulot. RIP, petit ange parti trop tôt. Le pape se lève, se colle devant un épais rideau. Si ça s'était passé il y a 20 ans, Bataille et Fontaine lui auraient dit « Fanfan, derrière, il y a Samantha, votre femme que vous cachez depuis 47 piges et qui est prête à vous pardonner, voulez-vous l'ouvrir ?» Le rideau, bien sûr, puisqu'en avion, il est interdit de monter avec un couteau de boucherie. Mais là, il s'installe et se met à parler d'homosexualité. Hein, lui, c'est comme Mélenchon, il peut tchétcher sur tous les sujets et ça dure 4h12. Donc, il dit, il y a toujours eu des homosexuels, ce qui est vrai. Hein, dans la Grèce antique, en 2700 avant N.A., Nikos Eliagas, peu importait le sexe de la personne aimée, seules ses qualités personnelles comptaient. Donc, Bachar al-Assad n'aurait pas eu de rancard. Et selon Aristote, c'était le Raphaël Enthoven de l'époque, en moins dédié à We'd Like to Fuck, les soldats gaulois combattaient nus, hein, donc on sait où ils plaçaient leurs boucliers pour se protéger, et entretenaient des relations amoureuses. Donc cherchez pas la vraie histoire d'Astérix, c'est Obélix qui tombe ses bras en disant « Astérix, bébé, je vais te faire monter au ciel, je te rappelle que je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit, j'ai une énorme gaule ». C'était une blague de l'époque. Bref, François continue. Que faire si on est parent et que son enfant est gay? Donc il répond « Il faut dialoguer ». Exemple, une fille dit à son père « J'aime les filles », le père peut répondre « T'inquiète, c'est ok, c'est ma catégorie préférée sur YouPorn, certes avec Black épilé plus Cougar, mais enfin, il n'y a pas de souci. Et ajoute François, que faire quand l'homosexualité se manifeste dès l'enfance? Par exemple, moi, à 6 ans, dans la cour de récré, je tripotais mes billes en me léchant les lèvres et en regardant mes camarades dans les yeux. Bon, raté, je suis devenu hétéro, au grand désespoir de ma famille, des gens de gauche qui auraient voulu un gay ou par défaut un arabe qui se colle avec une cousine. Et là, le pape dit, il y a des choses à faire par la psychiatrie pour voir comment ça se présente. Donc nous, ce qu'on entend, c'est les enfants gays sont timbrés, à l'instar d'Ariel Dombal ou de Vincent Sanchez, le dernier fan du chanteur Camaro. Alors qu'en fait, les enfants en général sont timbrés. Il suffit de les voir remonter la voiture 3 du train Paris-Marseille en hurlant pour s'en convaincre.
Alors le pape s'était pourtant montré tolérant par rapport à l'homosexualité.
Oui, il avait dit « Qui suis-je pour juger ?» phrase que j'ai prononcée moi-même cet été en regardant les sketchs des Bodins dans Fort Boyard. mais le pape François, ce qu'on oublie, c'est qu'il n'est pas en freelance. Il s'est pas mis en auto-entrepreneur en disant « Adieu, on fait 50-50 ». C'est le porte-voix de l'Église catholique. Et l'Église sur l'homosexualité dit, selon le catéchisme, « Ses actes sont contraires à la loi naturelle. Celle-ci étant un homme, plus une femme, plus des gosses, donc l'accès à la CAF. Ce qui est la meilleure raison de ne pas mettre de capote, ça permet de toucher du brosouf sans faire monnaie drop. Et dit l'Église, il ne procède pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Donc c'est très clair, hein, c'est pas demain qu'à la messe on va diffuser Crucified d'Army of Lovers, tandis que le curé décrit Jésus comme un type quand même bien gaulé. Bon, moi je dis ça, je n'ai rien contre ni pour le pape, je suis totalement athée, je ne crois ni en Dieu, ni même en Kylian Mbappé. Donc en fait, le problème ne vient pas de François, mais de nous-mêmes. C'est nous qui avons créé ce personnage du pape trop cool parce qu'il a lavé les pieds de gens infoutus de se payer un spa, soi-disant, parce qu'ils sont pauvres. Ah non, mais on s'est dit, les Sud-Américains, oui, caliente el papa. Mais enfin, François, c'est pas Shakira. Hein, c'est un latin, mais dans sa tête vit un polonais super coinceuse. Ça fait 5 ans que les médias nous le vendent comme un bobo. On a l'impression qu'il va se soulager dans un uri-trottoir à Paris parce qu'il a bu trop de jus carotte navet à Bastille avec la mère Hidalgo. Mais en fait, pas du tout. C'est un monsieur de 81 ans, un poil rétro dont le job est de véhiculer la parole de l'Église, c'est tout. Obama, ça fait pareil. On lui a filé le prix Nobel de la paix juste parce qu'il était beau. Résultat, il a défoncé le Yémen à coups de bombe, c'est un psychopathe. Quant à Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qu'ici on décrit comme un réformateur parce qu'il a ouvert les stades aux femmes, qui elles aussi sont obligées de se taper le foot. Et ben, depuis début 2018, son pays en est à 48 décapitations. La plupart pour des affaires de drogue. C'est-à-dire qu'on lui refile le showbiz français, aux Saoudiens, ils nous liquident tout le monde. Il restera juste Nagui, qui ne prend rien, hein, et Mireille Mathieu, qui n'a jamais rien pris. Donc tous ces gens, hein, le pape ouvert aux gays, Ben Salman qui fait des bisous, ils n'existent pas, ce sont des vues de l'esprit. De l'esprit saint pour François. Enfin, quand même.
Merci Tanguy Passion.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Guy, le film sort demain, le nouveau film d'Alex Lutz, réalisé par Alex, co-écrit par Alex et ses amis, interprété par Alex et ses amis, tout ça est autour de vous, non mais c'est très très intime, on doit aller chercher quelque part un petit côté psychanalytique j'imagine, qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce film ?
Oh bah beaucoup de choses je pense, beaucoup de choses... ça a été dit, c'est un film qui est drôle, j'espère, mais aussi très émouvant et de manière très assumée. Moi, j'aime bien cette alternance-là. Et puis, le film est dédié à nos pères au début. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait, cette dédicace. On m'a demandé s'il y avait une dédicace. J'ai mis à nos pères et c'était un mouvement comme ça. Et donc, c'est un questionnement, voilà, de père, de fils, de...
Une question qui revient souvent, c'est celle de Tom Dingler et de son père Cookie Dingler qui avait fait Femme Libérée.
Alors ça ne m'a pas guidé à l'écriture. Et mais on en parle beaucoup avec Tom, c'est-à-dire que lui, forcément, il y a des projections qu'il y a eu quand il joue avec moi dans le film. Moi, j'ai sans doute projeté des choses aussi, puisque on s'est connus à 16 ans, quoi. Enfin, voilà, et c'était les premiers artistes, Cookie et sa femme, qui est comédienne, Cathy Bernecker, c'était les premiers artistes que moi je connaissais.
De la région.
Oui, de la région, et puis surtout dans le quotidien d'une vie d'artiste. Ouais. Donc peut-être inconsciemment ça m'a influencé. Mais oui, c'est sans doute ce que j'ai fait de plus personnel. C'est-à-dire qu'il y a cette transformation, mais. Paradoxalement, c'est un film qui avance très sans masque, quoi. Il y a beaucoup de... Pour faire exploser le latex, vous êtes obligé de mettre énormément de sincérité, énormément de... voilà, oui, de choses personnelles, mais que je peux pas analyser de manière psychanalytique.
Il y a quelque part, il y a la peur d'être has-been un jour, ou en tout cas,
je pense qu'il y a toutes les mises en abîme.
Peur de l'après.
Peur de l'après, peur d'être has-been, la question de, enfin, pas forcément peur, mais un questionnement là-dessus. Qu'est-ce que c'est avoir la carte? Qu'est-ce que c'est pas avoir la carte? C'est quoi le bon goût? C'est quoi être culte, ne plus être culte? Qu'est-ce qu'on laisse? Voilà, c'est pas des grandes questions. C'est des questions, récurrente, voilà, mais j'y ai amené un regard artistique.
L'histoire de deux vies qui se regardent l'une l'autre, celle d'un père et de son potentiel fils, encore une fois, hein, il faut voir le film jusqu'au bout pour se faire son opinion, celle de ce chanteur Guy Jamais, chanteur à succès des années 70, qui a tout connu dans sa vie, tous les passages, voilà, à la mode, pas à la mode, puis le retour ou pas, il se retrouve sur des plateaux de télé, mais on se rend compte qu'il est même l'invité bis, que la vraie vedette c'est sa femme, jouée par Pascal Arbillot, et puis la quête de ce fils réalisateur qui fait un documentaire sur ce chanteur. Ces deux portraits se croisent avec une multitude, une palette incroyable d'êtres humains, parce que moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que c'est très 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 humain, voilà, et on n'est pas, vous n'êtes pas dans la critique, c'est pas pamphlétaire, c'est pas moqueur, on peut rire, mais sans se moquer.
Mais parce que je crois qu'on n'a pas besoin de décaler les... Il y a l'exercice de la chronique qui est un exercice, et puis il y a l'exercice de montrer une situation, et si la situation est bien gaulée, il y a normalement a priori assez à rire et à être ému et à comprendre l'humanité si on la regarde. Vous regardez un enterrement, évidemment c'est tragique. Après, le retard de Martine, la pièce de deuil où il y a marqué pour Jean-Jacques alors que c'est Thérèse qui est morte, le prêtre qui se trompe ou fait tomber un objet, tout d'un coup ça devient extrêmement drôle, et il n'y a pas besoin d'exagérer. Gérer ça, et ça on le connaît tous, cette alternance de grands drames, de grandes joies, d'éclats de rire et de larmes à la suite de ça. Moi c'est ce qui me plaît dans la vie, voilà, c'est ce qui me plaît.
Et ça marche, restons dans le drame et dans les larmes, voici Daniel Morin.
Trop, c'est trop.
Ah bon, t'en as marre?
En tout cas, c'est ce que c'est sûrement dit Nicolas Hulot. Notre ministre de l'écologie l'a dit ce matin, il quitte le gouvernement. Et où l'a-t-il dit? Il l'a dit sur France Inter, on l'écoute.
Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Réaction de Léa Salamé.
Vous êtes sérieux là?
Enfin Léa. Mais ma fille. Mais bien sûr qu'il est sérieux. Tu t'attendais à quoi?
Vous êtes sérieux là?
Mais non, je déconne. Un boulot à 9000 boules par mois, voiture avec chauffeur et pampon à la Benalla, voyage gratos, Air France, SNCF. Bien sûr que je reste. Oh, si on peut plus déconner. Celle-là, des fois, je te jure. Eh ouais, France Inter, c'est ici que ça se passe, les amis. Toutes les choses importantes se passent sur Inter. Qui c'est qui fait des interviews de Jean-Claude Van Damme? C'est Augustin Trapenard sur France Inter. Qui c'est qui donne la parole à des gens intelligents que personne n'y connaît? C'est Laura Adler sur France Inter. Qui c'est qui quitte l'émission en juin dernier comme un gros salaud pour aller voir du foot en Russie? C'est Nagui de France Inter. Eh oui, c'est toujours sur France Inter que ça se passe. Bon, bah, le départ de Nicolas Hulot, c'était inévitable, hein, avec tout ce qu'il a subi. C'est même étonnant qu'il soit resté aussi longtemps. Hein. Non, la nuit, les démons de la frustration, vous savez, venaient le hanter dans ses rêves. Notre-Dame-des-Landes, ouh!
Non, laissez-moi!
Énergie nucléaire, ouh!
Non, laissez-moi!
Loi sur l'alimentation,
non, laissez-moi!
Rejet de la biodiversité,
non, laissez-moi!
Maintien du glyphosate!
Ah non, pas le glyphosate, non!
Alors hier, la réunion avec les chasseurs qui ont fait 50% de ristournes sur le permis de chasse, plus des autorisations de buter tout ce qui bouge, c'en était trop pour Nico. C'était devenu intenable. Il commençait à avoir le rythme de vieillissement des clébards. En 15 mois de gouvernement, il a pris 7 ans. Quel soulagement en tout cas pour Nicolas Hulot, cette démission. Quand il est sorti du studio, j'y étais, j'ai vu. Il a laissé éclater sa joie. Il a balancé son costard, il a défait ses cheveux, il a enfilé une robe bleue, il s'est écrié...
Libéré,
ah oui.
C'est décidé, je m'en vais.
Et ça faisait plaisir à voir. Une fois dans la rue, il a dit au revoir à son garde du corps. Il a fait la bise à son chauffeur. Et cette matinée ensoleillée, il en a profité. Oui, il en a profité. Il s'est mis à poil. Il est monté sur le pont Mirabeau. Il a plongé dans la Seine.
Non, pas la Seine.
Si, il a nagé, puis il est remonté par le pont de Grenelle. Il s'est laissé sécher au soleil, les bras écartés. Et une fois sec, Il a pris son envol en chantant. Oh, vas-y, Nicolas, vas-y, vas-y, vole. Retourne vivre parmi les tiens, les petits oiseaux, les nuages, les fleurs. Tu es libre maintenant. Tu es léger comme la plume du colibri, agile comme la fibre du feuille du platane. Va, 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 à demain.
Merci, Daniel.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Je sais que c'est un sujet qui vous parle, l'écologie, peut-être la politique un peu moins, mais la nature. Vous êtes un papa responsable et concerné. Cette décision, vous l'avez prise comment, Alexis ?
Mais je vous le disais tout à l'heure, je sais pas en fait. Parce que du coup, quand j'ai écouté la chronique de Daniel, j'ai déconstruit tout ce que je vous ai dit tout à l'heure de manière énervée. Alors, bon.
Que je ne répéterai pas donc.
Non, mais on peut le dire. C'est-à-dire tout à l'heure, ça m'a plutôt mis en colère parce que.
Vous avez
parce
vécu
que
ça comme un abandon, quoi.
Ouais, mais j'adore. J'adore le mec et je crois qu'on l'aimait tous bien. Il est toujours là.
Enfin, il est vivant, oui.
Mais et effectivement, sur le moment, je l'ai pris plus comme un aveu d'extrême honnêteté que comme un aveu de courage politique. Mais déjà à la seconde, là, je suis en train de me dire bon, bah après tout, ouais, je comprends. Mais je trouve juste que et nous citoyens et eux politiques sont sur, mais c'est la grande question du septennat. Moi, à l'époque, le quinquennat, ça m'avait terrifié parce que je me dis, on peut rien régler de correct là-dedans. Ils sont tout le temps dans des échéances électorales.
Donc 5 ans, c'est trop court pour.
Mais c'est
gérer.
Pas ça. C'est-à-dire 15 mois, sérieusement, 15 mois pour baisser les bras, c'est terrible, c'est terrible. Et je crois qu'on a tous amené ça. Il y a pas quelqu'un qui arrive qu'on n'est pas au bout de 6 mois en train de dire ah bah bravo, ah bah rien n'est fait, alors que nous-mêmes. Enfin, regardez comment on gère, un dossier de, je sais pas, moi, d'appartement.
Est-ce que c'est
qu'il faut du temps pour les choses.
Est-ce que c'est si long et si compliqué de dire que, par exemple, il faut le plus possible qu'il y ait de la nourriture bio dans les cantines, le plus possible, le moins possible de glyphosate?
Je crois que le discours arrive, si vient doucement. C'est un ministère très important. Ça veut bien dire qu'il avance ce discours et que ça vient. Et bien sûr, ça doit être plus rapide. Mais enfin, faut pas oublier qu'à un moment donné, on n'avait rien à foutre. Alors après, ce qu'il doit abattre comme mur, j'imagine, on le sait même pas, mais. C'est national, c'est européen, c'est mondial, c'est des entreprises, on n'y comprend rien. Ça doit être extrêmement, je comprends, décourageant. Mais ça m'a fait plus cette sensation-là.
Guy est au cinéma à partir de demain et on reparlera de tous les projets de Convoi Exceptionnel, de Catherine et Liane qui continuent, bien sûr, toute cette année. Mais en tout cas, d'avance, félicitations pour ce film et puis merde pour la sortie de demain. Et puis l'album existe aussi, on peut écouter.
L'album et le vinyle, figurez-vous.
C'est très tendance, c'est très mode, hein, le vinyle. Ouais. Attention, c'est plus d'orague.
C'est pas la pierrade, vous voulez dire.
Ça fera un bon titre de chanson.
La pierrade.
La pierrade.
Oui. Oui, c'est vrai.
Ah oui.
C'est vrai, ça marche bien.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh oui, alors désolé déjà pour tous les futurs invités à dîner d'Alexandre Lutz, ceux qui ont découvert qu'ils n'en avaient rien à foutre de leur conversation, mais rien du tout. En même temps, vous êtes prévenus, voilà, c'est plutôt honnête. Alors, rapport au gros dossier du moment, désolé pour Nagui, j'ai eu la direction d'Inter à la pause, l'émission restera filmée et demain tu seras à poil. Je t'ai pas lâché de l'émission aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est à la demande de la direction qui trouve que ça rend bien en radio filmée. Et désolé pour les fans de l'esthète de culture, le talentueux Alex Lutz, tous ces fans qui ont découvert que leur idole était un expert en queuleuleux.
À bientôt, Alex.
Merci. Merci.
Revenez chanter cette fois. La prochaine fois, venez pour chanter.
Un taratata, cool. Un taratata.
Un dadidou. Moi, j'aimerais bien aussi.
Oui. Mais c'est plus facile en Guy. En moi-même, ça fait un peu plus peur. Lui, il a 40 ans de carrière. Hein,
c'est vrai. Lui, c'est un pro.
Quand il arrive, vraiment, il est rassuré.
Demain, Leïla Slimani et Sarah Giraudeau seront nos invités. Tout de suite, Sarah, pas Anna Girardeau, c'était hier. Anna Girardeau, demain, c'est Sarah Giraudeau.
Oh, j'ai du mal avec les voyelles.
Oui, vous avez du mal avec les oreilles, surtout.
Avec le son haut, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de...
mal avec la ville.
Philippe Bertrand pour ses carnets de campagne.
Daniel Morin, je m'appelle.
Bonjour. Salut, Nagui. Ah là là, c'est n'importe quoi, ce Daniel.
Je vous confirme.
Donc, si j'ai bien compris, Alex a fait son film avec ses amis. En fait, c'est pas Guy, c'est Guy Lutz.
Oh. Oh. Ah, bah voilà.
Attention,
voilà.
C'est Guy. Batterie de vanne.
Merci.
Bonne émission.
Ouais, salut les amis.
À demain.